Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Les électeurs ne s'intéressent guère aux élections au Parlement européen. Il vivait tranquillement sa vie, co-géré par ses deux forces. Il en sera tout autrement après les élections de mai. Que peut-il se produire, Brice?
L'ancienne formule, celle qui consistait à gouverner au centre en s'appuyant sur la grande coalition formée par les deux principales forces politiques du Parlement européen, à savoir le PPE de centre-droit et le S&D de centre-gauche, qui contrôlent aujourd'hui 54% des 751 sièges du Parlement européen, cette formule, elle a vécu. On l'a accusée d'immobilisme, mais elle a assuré une grande stabilité aux travaux de notre Europarlement. Modérés et sociaux-démocrates divergeaient sur des détails, mais ils étaient d'accord sur l'essentiel. Et à toutes les questions, la réponse était inspirée par l'idée « davantage d'Europe, plus de politique commune et tout ira mieux ». Ils avaient marginalisé les eurodéputés radicaux et les maintenaient à l'écart des vraies responsabilités. Tout ça est amené à changer. Le S&D va probablement perdre plusieurs dizaines de sièges. Les partis de gauche sont en déroute partout en Europe. Quant au PPE, il est au bord de l'éclatement. Il est divisé en profondeur par le cas Orban. Les plus centristes voulaient l'expulser, les plus droitiers sont tentés de le suivre dans son espèce de révolution conservatrice pour contrer la menace populiste. Oui, mais tandis que les modérés vont se diviser, souverainistes, populistes, xénophobes de divers calibres, aujourd'hui éclatés en plusieurs groupes politiques rivaux, pourraient bien se retrouver sous une bannière commune afin de gagner du pouvoir. Du coup, ce seront les groupes libéraux et écologistes qui seront amenés à jouer un rôle beaucoup plus important dans notre futur Parlement. En outre, il va falloir compter avec un certain nombre de nouveaux venus, comme les Ciudadanos espagnols et les Cinque Stelle italiens. Avec eux, ce ne sera pas trop difficile, mais des majorités peuvent aussi être trouvées sur certains sujets, avec des partis comme la France Insoumise et Podemos. Une chose est sûre, aucune majorité ne pourra se dégager sans de multiples négociations. Le temps des majorités automatiques est terminé. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la démocratie européenne.
Mais si cet éclatement de la scène politique européenne faisait le jeu des populistes, Brice ?
Le Parlement européen pourrait bien se retrouver sous le contrôle de nationalistes pleins de confiance en soi, de conservateurs ambigus et de sociaux-démocrates radicalisés. Une possibilité qui paraît également effrayante. Voilà ce qu'écrit Frédéric Erikson dans The Spectator. Pourquoi ? Parce que les eurodéputés populistes faisaient beaucoup de tapage au Parlement européen, mais il n'y avait guère de pouvoir. S'ils se confirment qu'ils feront leur entrée en force en mai, ils affecteront dans des proportions qu'il est difficile d'évaluer d'avance les décisions de l'UE sur quantité de sujets. En tout cas, ils ne pourront pas modifier les institutions ni leurs règles de fonctionnement, puisque celles-ci sont gravées dans le marbre des traités, mais ils peuvent les métamorphoser de l'intérieur. On peut d'ores et déjà s'attendre à ce que la nomination de la prochaine Commission européenne se révèle délicate. Par exemple, si des gouvernements populistes insistent sur les noms de personnalités de leur choix et qu'un nombre suffisant d'eurodéputés les récuse ces choix. Et même si ces gouvernements se résignaient, avoir confié à leur commissaire un portefeuille d'importance secondaire, ce qui est probable, on peut s'attendre à ce que ces commissaires populistes fassent des éclats au sein de la future commission, puisque par tradition, les décisions importantes au sein de cette commission sont adoptées de manière consensuelle. En outre, les commissaires européens sont censés oublier, dans une certaine mesure, les intérêts nationaux de leur pays d'origine pour se consacrer au service de l'intérêt général de l'Union européenne. Il y a peu de chances pour que des commissaires choisis par des gouvernements nationalistes acceptent cette règle.
Et alors, quelle solution ?
Selon les auteurs de la note de la Fondation Carnegie, que j'ai beaucoup utilisée pour cette série de chroniques, il faut prévenir les électeurs que, oui, cette fois, c'est différent. Les enjeux sont considérables. Il ne faut pas laisser les partis extrémistes donner le ton. Ils misent en effet sur la création d'un climat de peur et de tension. Le moyen d'y parvenir pour eux serait de laisser la question de l'immigration supplanter toutes les autres. Il faut mobiliser la société civile, disent-ils encore, et surtout, citation, « pour parvenir à définir un socle commun, les politiciens libéraux doivent jouer carte sur table et dire clairement quelle sorte d'Europe ils veulent vraiment, et non plus se contenter de parler en termes de pro et d'anti-européens ». Fin de citation. On n'en est plus là. Ils doivent faire comprendre que la paix, la sécurité et la prospérité qu'a apporté l'Union européenne ne sont pas garantis à vie.